Formidable Belmondo, le journal Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Et au sommaire ce matin, les couleurs retrouvées du BTP. France Inter vous dévoile les derniers chiffres du secteur. Plutôt bon malgré la pénurie de matériaux. La Guinée dans l'expectative après le putsch de dimanche. Les militaires au pouvoir tentent de rassurer citoyens et investisseurs étrangers. Il nous a fait rire, il nous a fait peur dans ses films. Cette fois, il nous fait pleurer. Jean-Paul Belmondo n'est plus. Et ce matin, l'exécutif réfléchit à la forme que prendra l'hommage de tout un pays. En attendant, parole à ces anonymes qui l'ont croisé dans ses cafés préférés à Paris. Portrait aussi du Belmondo sportif dans ce journal.
Et à 7h50, hommage à Belmondo avec au micro de Léa Salamé, le producteur, acteur, ancien agent d'artiste Dominique Besnéard et l'actrice amie de Jean-Paul Belmondo, Françoise Fabian.
France Inter.
Les grues donc colonisent de nouveau nos villes, Alexis, et c'est un signe.
Le signe que les carnets de commandes des entreprises du bâtiment se remplissent de nouveau après le gros coup de frein de 2020. France Inter vous présente ce matin en exclusivité les derniers chiffres du BTP. Ça se confirme, le secteur se porte beaucoup mieux, plus 37% de croissance par rapport au même trimestre de l'an dernier. Malgré donc, Maxime Debs, cette pénurie persistante de matériaux.
Patron d'une PME dans l'aluminium près du qui conçoit notamment des vérandas, Bruno Hatton constate clairement cette croissance à deux chiffres par rapport à l'an dernier. Normal, me direz-vous, l'activité ne tournait que très partiellement à l'époque, mais même comparé à 2019, ça n'a rien à voir.
En général, on a 2 à 3 mois de carnet de commandes, là on est plutôt sur 4 à 6 mois.
Longtemps confinés, les Français ont des envies de réaménager leur intérieur, tous en même temps, plus 2% de travaux de rénovation par rapport à 2019. Aubaine pour le secteur du bâtiment s'il n'y avait pas cette pénurie de matériaux qui dure et qui complexifie les chantiers.
On est pris dans un étau.
3/4 des entreprises du BTP déclarent une hausse des prix des matériaux due à cette pénurie. Plus de la moitié, 57%, sont en rupture d'approvisionnement. Galère et frustration pour les salariés.
C'est frustrant parce qu'en fait, on ne peut pas aller plus vite que la machine.
Oui, mais la machine repart et si tout n'est pas rose, c'est déjà ça, veut retenir surtout le président de la CAPEB, Jean-Christophe Repond.
Moi, je n'ai pas oublié le début Covid, la sidération, les entreprises bloquées, tout le monde à la maison et puis derrière, la difficulté de convaincre les clients de nous rouvrir leur habitat, de travailler et d'avoir une activité correcte. Donc,
reste le risque d'une baisse du chiffre d'affaires pour les entreprises obligées de finaliser les chantiers malgré la flambée des matières premières. Le secteur n'espère qu'une chose, que la pénurie ne dure pas trop longtemps.
Maxime Debs et ses patrons du BTP comme d'autres secteurs pourront bénéficier d'une prolongation des aides à l'apprentissage. 5 000 euros pour un mineur, 8 000 pour un majeur. Le dispositif devait s'arrêter en décembre. Il est finalement prolongé jusqu'au 30 juin 2022. Sur le front sanitaire, bonne nouvelle en Guadeloupe, le pic des hospitalisations pour Covid est passé, annonce ce matin le CHU de Lille, même si les autorités locales redoutent l'impact de la rentrée scolaire prévue lundi prochain en Guadeloupe. Ailleurs dans le monde, la Nouvelle-Zélande en termine ce soir avec le confinement, sauf à Auckland. À l'autre bout de la planète, le Canada rouvre aujourd'hui ses frontières aux voyageurs étrangers vaccinés après 1 an et demi de fermeture. Son procès est très attendu car la photo avait provoqué un tollé au cœur de l'été. C'est demain que comparaîtra l'enseignante qui avait brandi une pancarte antisémite lors d'une manifestation anti-pass le 7 août dernier à Metz. On pouvait lire sur cette pancarte plusieurs noms de personnalités avec la mention traître et la question « Mais qui ?» devenu slogan récurrent ces derniers mois. L'Aurélie Carrie, vous avez eu accès au compte-rendu de l'interrogatoire. La jeune femme nie tout antisémitisme.
« Je voulais simplement dénoncer les puissants et les décisions prise depuis le début de la crise sanitaire, a martelé Cassandre Fristo devant les policiers à Metz. Pour fabriquer la pancarte la veille de la manifestation, la professeure d'allemand s'est inspirée d'un modèle trouvé sur Internet et n'avait aucune idée, jure-t-elle, de l'origine ou de la confession de ceux dont elle a inscrit le nom en lettres capitales. Une ligne de défense que balaye Simon Burkatsky, avocat de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, partie civile au procès. Pour lui, le choix des personnes visées par la pancarte relève d'une rengaine bien connue.
C'est une des vieilles lunes de l'antisémitisme qui sont un peu la naphtaline. On veut faire croire que les juifs seraient derrière le pouvoir. En quoi Rothschild ou Soros ont-ils un lien avec la politique sanitaire en France ? Aucun. ces personnes ont été bel et bien choisies parce que juives. Elle n'a pas inscrit, par exemple, le nom du Premier ministre.
La dizaine de parties civiles obtiendra-t-elle gain de cause? Ce type de dossier est toujours délicat. La jurisprudence est claire. Pour donner lieu à une condamnation, la provocation à la haine raciale doit être évidente. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle certaines associations ont préféré rester à l'écart de la procédure.
L'Aurélie qu'arrive avant ce procès demain. C'est une fête de l'indépendance particulièrement tendue qui s'annonce aujourd'hui au Brésil. Des manifestations de soutien au président Bolsonaro sont prévues dans les grandes villes. Il promet, Bolsonaro, des foules gigantesques. En face, ses opposants comptent bien empêcher cette démonstration de force. Avec déjà des premières tensions cette nuit, des pro-Bolsonaro ont forcé un cordon policier à Brasilia. En Guinée, 36 heures après l'arrestation du président Condé, le chef des putschistes Mamadi Doumbouya promet un gouvernement d'union nationale. Les militaires tentent de rassurer aussi les investisseurs étrangers dans ce pays gros producteur de minerais. Mais sur place, on attend de voir avant de juger, Julie Pietri.
Depuis le coup d'État, Salisso surveille de près les différentes prises de parole. Blogueur engagé dans la défense des droits de l'homme, il a apprécié quand Mamadi Doumbouya a interdit aux anciens dirigeants du pays de quitter la Guinée. Justice doit être rendue, estime le jeune homme, après la répression sanglante menée depuis 2010. Près de 200 personnes tuées, notamment lors de manifestations.
C'est un beau discours, mais c'est que moi je voudrais beaucoup plus qu'il y ait des actes. Il faut passer aux actes en punissant les coupables.
Les militaires restent des militaires, ajoute le cyberactiviste. Il ne faudrait pas qu'ils s'éternisent au pouvoir. Aliou Barry, qui dirige le Centre d'analyse et d'études stratégiques de Guinée, s'inquiète, lui, des promesses données hier par les putschistes aux investisseurs étrangers. En résumé, les contrats miniers seront assurés.
La junte actuelle est arrivée au pouvoir pour une transition. Ils n'ont que deux missions essentielles. Identifier ceux qui se sont rendus coupables de violations des droits de l'homme et surtout préparer des prochaines élections libres et transparentes. S'ils sortent de ces deux missions, à mon avis, ils ne sont pas venus pour une transition, ils sont venus au pouvoir. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'une équipe qui vient pour une transition commence à parler de mines, de développement, d'infrastructures. Non, ce n'est pas leur rôle.
Pour l'instant, les putschistes n'ont fixé aucune date, aucune échéance pour l'organisation d'une élection démocratique.
Témoignage recueilli par Julie Pietri pour France Inter. Malgré l'opposition d'une majorité de sa population et les grosses réserves des économistes, le Salvador devient aujourd'hui le premier pays au monde à autoriser le bitcoin comme monnaie légale aux côtés du dollar américain. Pour les autorités locales, la crypto-monnaie permettra notamment d'économiser 400 millions de dollars de frais bancaires lors des envois d'argent par la diaspora. Mais pour les experts, c'est un pari très dangereux car le taux de change du bitcoin est très volatile.
Il est 7h37, Alexis. Quel hommage officiel pour l'immense Jean-Paul Belmondo.
C'est la question des prochaines heures, tant la disparition de l'acteur hier à 88 ans provoque ce sentiment de vide chez beaucoup d'entre nous. Il ne mérite pas moins que Johnny Hallyday, estime Thierry Frémaux, le délégué général du Festival de Cannes. Un hommage lui sera bien rendu, assure la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Le président est en relation avec sa famille, dit-elle. Tout sera bâti avec elle dans les prochains jours pour en fixer les contours. En attendant, chacun confie ses souvenirs, ses coups de cœur parmi plus de 80 films, 50 ans de carrière, ce trait d'union unique entre films d'auteur et grands rendez-vous populaires. Souvenirs d'anonymes qui l'ont croisé un jour, comme au Café de l'Alma, cette brasserie parisienne où Bebel avait ses habitudes, Adrien Serrière.
Dans cette brasserie chic à la clientèle d'habitués, la table numéro 20 était souvent réservée par un certain Jean-Paul.
Chaque personne, chaque client sait que la table qui est là, elle est pour Belmondo. Donc à chaque fois qu'un client voulait la réserver et qu'elle n'était pas disponible, on disait que la table de Belmondo est prise. Tout le monde comprenait et demandait à être ailleurs.
Au moins deux fois par mois, Fabrice du Café de l'Alma voyait débarquer Bebel, toujours entouré de copains.
Donc il faut savoir qu'il se mettait là, face aux clients, les clients lui parlaient de temps en temps, il se levait pour venir le voir, il faisait des photos, il n'a jamais refusé.
Un homme accessible, sa Régine peut le confirmer, elle qui le croisait souvent dans le quartier.
Quand je l'ai vu une fois, je lui ai dit alors, c'est fini les cascadeurs maintenant? Alors il m'a regardé l'air de dire « Eh oui !»
Malgré la fatigue et les séquelles laissées par un AVC, Jean-Paul Belmondo continuait de rayonner. C'est ce dont se souviendra Joël.
Toujours avec un grand sourire, comme d'ailleurs dans ses films. C'est une partie à la fois de ma jeunesse et de la belle vie qui part avec lui. C'est très triste.
Et cette belle vie, la table 20 du Café de l'Alma s'en souviendra. Pas impossible que le nom Belmondo y soit bientôt gravé pour l'éternité.
Une partie de ma vie qui part avec lui, nous disait à l'instant ce Parisien, car dans la filmographie de Belmondo, il y en a un peu pour tous les goûts, de la nouvelle vague des années 60, à bout de souffle, Pierrot le Fou, au film de Castagne et de Cascade des années 80, Le Professionnel, L'As des As ou encore Hold Up, cette comédie policière sortie en 85. L'acteur y était dirigé alors par Alexandre Arcadi, expérience inoubliable pour le réalisateur.
Le jeune metteur en scène que j'étais, quand on lui a proposé ce film avec Jean-Paul, c'était un cadeau magnifique. Et j'ai pas hésité une seule seconde parce que j'ai découvert un homme incroyable. Un homme qui était un enfant, un grand enfant, qui aimait jouer, qui aimait les propositions de mise en scène qu'on lui faisait. Il était là en rigolant avec son costume de clown. C'était un clown, c'était quelqu'un qui aimait faire plaisir, qui aimait faire rire. C'était un grand jouisseur.
Le réalisateur Alexandre Arcadi. Ce matin, quasiment toute la presse met Bébel à sa une, la clope au bec, en blouson de voyou ou en costard. Même L'Équipe propose un cahier spécial. Assez logique finalement, car le sport a pris beaucoup de place dans la vie de Jean-Paul Belmondo. Les cascades, bien sûr, qu'il tenait à réaliser lui-même. Mais pas seulement, Fabrice Abgral.
Sa passion, c'était la boxe que Jean-Paul Belmondo pratiquait en amateur. Il a alors 20 ans. Après quelques succès, on lui propose de passer professionnel, mais il refuse, préférant se consacrer à sa carrière de comédien. Il continuait toutefois à s'entraîner à l'Avia Club de la Porte-Saint-Martin à Paris. En février 1961, Jean-Paul Belmondo explique ce que lui apporte la boxe dans sa vie et dans sa carrière d'acteur.
La boxe m'avait donné justement ce côté hargneux dans la vie, c'est-à-dire ne pas se laisser démonter quand ça va mal. C'est la volonté de gagner qui vous donne cette sorte de hargne.
Et hors du ring.
Et bien dans la vie aussi, c'est de s'accrocher quand ça va mal, et puis quand on est un peu désespéré, de ne pas s'écouter, de continuer à lutter. Et je crois que j'ai appris ça avec la boxe.
Jean-Paul Belmondo adorait se rendre à Roland-Garros, où il louait une loge qu'il aimait partager avec ses amis. Mais son autre passion, c'était le football. Il crée dans les années 60 l'équipe des Polymusclés, rassemblant des sportifs, des acteurs, des chanteurs et des journalistes. Dès qu'il le peut, Jean-Paul Belmondo n'hésite pas à chausser les crampons.
Souvent le dimanche, je joue au football, tout ce qu'il y a de plus amateur.
Oui, pas en première division.
Non, pas en première division.
Et vous jouez à quelle place hein?
Gardien de but. J'aime bien plonger.
Jean-Paul Belmondo était sur le terrain, dans les tribunes, mais aussi en coulisses. Il sera l'un des tout premiers souscripteurs à la création du PSG en 1970.
Fabrice Abgral pour ce portrait du Belmondo sportif. Les hommages se poursuivent ce matin sur France Inter. Rendez-vous notamment à 9h10, Boomerang, Augustin Trapenard et la rediffusion d'un entretien avec Jean-Paul Belmondo. Pendant ce temps, les États-Unis pleurent, eux, la mort d'une figure de la série culte The Wire, Michael Kenneth Williams, Omar dans la série. L'acteur s'est éteint hier à 54 ans.
Alexis Morel, merci. L'édito politique est à suivre sur